Bien, bonjour. Meilleurs vœux, après tout. Nous avons hier eu une séance d'un atelier d'histoire de l'art, mais tous ceux qui sont ici n'y étaient pas. Heureusement d'ailleurs, parce que vous ne m'auriez pas tenu dans la salle. Alors, à ceux qui n'étaient pas là hier, je présente à mon tour mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Vous savez que, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, nous avons décidé cette année, dans le cadre des 4 séances que je vais animer dans le cadre des cours de l'ITB, de vous parler de la manière dont un certain nombre d'artistes occidentaux ou français ont pu au cours des siècles être intéressés et regardés du côté de cultures non occidentales et comment ce regard sur des cultures extra-européennes a pu enrichir, modifier leur propre pratique artistique. Et vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, j'avais eu l'occasion ici même d'évoquer comment l'Occident, en l'occurrence la France, a pu regarder du côté de l'Extrême-Orient et de la Chine. Et vous vous souvenez que nous avions étudié cette question à travers le cas des chinoiseries de François Boucher. Aujourd'hui, c'est vers un autre continent que nous allons tourner notre regard, l'Afrique. À travers une question qui recoupe effectivement des dossiers fréquemment maniés par l'UTB, et qui est la question de l'égyptomanie. L'égyptomanie qui, si j'ose dire, à Chalon trouve en quelque sorte des racines, grâce à notre cher Dominique Vivant Denon, grâce à qui finalement, n'est-il pas après tout l'une des têtes pensantes de ce qu'on a appelé l'expédition d'Égypte, hein, c'est-à-dire la partie savante de la campagne d'Égypte, c'est finalement Dominique Vivant Denon qui a permis de collationner, de collecter toute une série de données scientifiques de tous ordres sur l'Égypte, ce qui a finalement déclenché un courant égyptomaniaque, non seulement en France, hein, mais également dans d'autres pays d'Europe. Alors, on va peut-être pouvoir éteindre une partie des lumières pour que vous puissiez, ou peut-être toutes, je ne sais pas, pour que vous puissiez mieux voir les diapositives que je vais avoir à vous montrer. Alors, je crois que lorsque l'on évoque un sujet comme celui-ci, c'est-à-dire la manière dont l'Europe occidentale a pu regarder du côté de l'Égypte, il est bon peut-être d'abord, tout comme d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le faire la fois dernière pour la Chine et François Boucher, il est bon, me semble-t-il, d'abord d'essayer d'ouvrir la porte qui nous intéresse là à travers un artiste particulier. Aujourd'hui, c'est Hubert Robert qui va être l'artiste qui va nous guider dans ce chemin qui, encore une fois, est celui d'un regard des artistes occidentaux sur l'Égypte ancienne. Et bien entendu, s'il est un événement qui va véritablement déclencher une sorte de mode maniaque de l'Égypte à travers les arts en Occident, c'est bien entendu la campagne d'Égypte. La campagne d'Égypte dont il est important, je crois, de manière très rapide et succincte, en préambule à cette séance, de dire quelques mots. Alors, je ne vais pas de manière détaillée, n'est-ce pas, évoquer cette question, que vous avez d'ailleurs certainement déjà eu l'occasion d'évoquer ici même, dans le cadre de l'UTB, mais je voudrais rappeler simplement quelques moments, quelques dates de cette campagne d'Égypte, qui d'ailleurs a été largement célébrée par les peintres. Vous voyez que l'égyptomanie, c'est pas simplement la manière dont les artistes d'Europe occidentale vont utiliser un vocabulaire venant de l'Égypte antique, mais c'est également la manière dont ils ont pu représenter la campagne d'Égypte. C'est déjà, d'une certaine manière, ça aussi, une dimension égyptomaniaque. Je vous rappelle simplement que la campagne d'Égypte, qui a eu lieu entre l'extrême fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, hein, elle commence en 1798, elle s'achève en 1801, c'est une campagne ramassée, courte finalement, que cette campagne d'Égypte. Elle sera menée bien entendu par le général Bonaparte, que vous voyez d'ailleurs ici au centre de ce tableau. Et je rappelle que les buts de la campagne d'Égypte sont des buts multiples. Le premier but, je dirais direct et avoué, c'est le souhait pour la France de s'emparer de l'Égypte et d'une partie de l'Orient. Il y a donc une stratégie que je qualifierais d'une certaine manière de coloniale, hein, dans ce projet-là. Mais il y a derrière ça une volonté également très ferme et très claire qui est celle de barrer aux Anglais, ou plus exactement aux Britanniques, la route des Indes. Vous savez que l'Égypte et d'ailleurs tout le monde ottoman, l'Égypte est un élément du monde ottoman, constitue pour les Britanniques une sorte de porte et de passage nécessaire pour le commerce avec l'Asie. Eh bien, en intégrant, en conquérant l'Égypte, c'était une manière, bien sûr, pour la France de gêner les Britanniques. Cette question économique n'est donc pas secondaire à l'intérieur de cette campagne d'Égypte. L'idée est également, et nous verrons comment d'ailleurs il y a des échos dans la manière dont l'art va se saisir de la question égyptienne, il y a également derrière tout cela des raisons, je dirais, d'idéal politique. Après tout, cette France de la fin du XVIIIe est encore toute pétrie de l'idéal révolutionnaire. Finalement, en essayant de conquérir l'Égypte, c'est une sorte d'écho oriental de ce que la France tente de faire en Europe même, c'est-à-dire d'exporter l'idéal révolutionnaire à travers le monde, en l'occurrence à travers le Proche-Orient. Il y a donc là une sorte d'idéologie qui n'est pas secondaire dans la campagne d'Égypte. Et puis notons enfin que l'un des éléments essentiels qui explique la campagne d'Égypte, c'est aussi l'ambition personnelle de celui qui en est à la tête, c'est-à-dire de Bonaparte, du général que vous voyez là, caracolant au centre de ce tableau. Tableau dû à Antoine Jean Gros, qui va être un des chantres picturaux essentiels de cette campagne d'Égypte, et qui nous montre ici un des événements marquants. Je vous en montrerai 4 ou 5 autres, simplement pour nous remettre en tête les grands moments, les grandes dates de l'expédition d'Égypte. Mais cette bataille des pyramides, dont vous voyez ici la représentation, et qui a lieu en juillet 1798, est une victoire importante de l'armée française contre les Mamelouks. Notez d'ailleurs que cette bataille a été nommée par Bonaparte lui-même, bataille des pyramides, alors que, contrairement à ce que l'on peut penser, elle n'était pas si proche de cela que des pyramides. Mais c'est là un point intéressant. C'est-à-dire qu'en faisant que cette bataille, où les pyramides n'étaient à vrai dire guère visibles, sinon dans un lointain, très lointain justement, en appelant cette bataille, tout de même bataille des pyramides, pour Bonaparte, il y a là un enjeu qui est, j'allais dire, de donner à cette bataille, à cette victoire, la vénérabilité antique que les pyramides égyptiennes peuvent conférer à un tel événement. On voit donc qu'il y a ici déjà une sorte de manière d'utiliser l'antiquité égyptienne dans un sens particulier. Un événement également important de la campagne d'Égypte, c'est la bataille d'Aboukir, ou plus exactement la première bataille d'Aboukir. Vous savez qu'il y a eu 2 batailles d'Aboukir, une sur terre, j'y reviendrai tout à l'heure, une sur mer. Eh bien, voilà la bataille d'Aboukir maritime, celle que les Anglais appellent la bataille du Nil. En France, on n'en parle pas beaucoup de cette bataille-là, tout simplement parce que ça a été une défaite. Une défaite d'ailleurs tout à fait cuisante. Et qui a été marqué notamment par l'explosion d'un navire français, le navire Lorient. Vous y assistez là dans le tableau que je vous montre. D'ailleurs, dans cette bataille s'est illustré le fameux Nelson, notre meilleur ennemi, si j'ose dire. C'est en août 1798 un revers, bien entendu, décisif pour l'armée française. Mais très vite, celle-ci se reprendra, en particulier dès avril 1799, par un autre événement qui est celui du combat de Nazareth, dont vous voyez ici la représentation, à nouveau par Antoine Jean Gros, dont vous voyez qu'il est vraiment le chantre pictural de cette épopée, j'allais presque dire napoléonienne, plutôt bonapartienne, en Égypte. Il s'agit là d'un autre moment important de la campagne d'Égypte, dans lequel Junot va mettre en déroute les armées turques. Nous sommes encore une fois alors en 1799. La bataille du mont Tabor, je vous montre ici la représentation de cette bataille dans un tableau réalisé beaucoup plus tardivement, vers le milieu du XIXe siècle, sera à nouveau une bataille importante dans laquelle Bonaparte et Kléber vont mettre en déroute les troupes turques, à nouveau en 1799, et elle constitue un autre événement essentiel, largement évoqué par les peintres. Tout comme l'autre bataille d'Aboukir que les Français ont bien plus que l'autre aimé à représenter. On se demande pourquoi, n'est-ce pas ? Vous voyez d'ailleurs ici un tableau dû au pinceau de Antoine Jean Gros, encore lui, toujours lui. Un tableau d'ailleurs commandé par Murat, qui a participé à cette bataille, qui a été une victoire de Bonaparte sur les Ottomans. Et il est d'ailleurs assez singulier, enfin assez piquant, de voir que dans ce tableau commandé par Murat, Murat occupe, vous le voyez, la place de choix. Vous le voyez tout emplumé, n'est-ce pas, au centre du tableau. On peut comprendre pourquoi. Cette bataille, cette victoire française a lieu en 1799, en juillet, et c'est près d'un mois plus tard d'ailleurs que Bonaparte décidera de partir d'Égypte pour retourner en France, laissant le commandement à Kléber, Kléber qui avait, bien entendu, s'était déjà fait remarquer, n'est-ce pas, au cours de cette expédition, et qui donc va devenir le responsable, en quelque sorte, de cette campagne. Il va d'ailleurs bientôt négocier avec les Anglais une sorte de paix, mais un peu précaire, qui, j'allais dire, ne verra pas véritablement le jour, d'autant que en juin 1800 aura lieu l'assassinat de Kléber, vous y assistez, si j'ose dire, qui évidemment mettra à mal cette tentative temporaire, partielle, de pacification de ce conflit franco-britannique en sol égyptien. Tout ça se terminera, grosso modo, par la bataille de Canope, qui est une défaite française en 1801, qui va d'ailleurs très vite entraîner la capitulation des troupes françaises, aussi bien au Caire qu'à Alexandrie. La même année, on peut dire qu'en septembre 1801, c'en est fini de la campagne d'Égypte. Voilà. Rappeler de manière picturale les grands événements de cette campagne rapide, mais qui évidemment joue un rôle important, en particulier dans le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire, j'allais dire, une sorte de découverte ou de redécouverte de l'Égypte. Parce que, parallèlement à cette dimension militaire que je viens de rappeler, il y a une autre dimension que vous connaissez bien et qu'incarne évidemment Dominique Vivant-Denon, qui est ce que l'on appelle non plus la campagne d'Égypte, mais l'expédition d'Égypte, et qui est la dimension, cette fois, scientifique. Vous savez que Bonaparte avait souhaité qu'un certain nombre d'historiens, de botanistes, d'archéologues, que sais-je encore, s'embarquent avec lui pour l'Égypte, et que, parallèlement à la dimension militaire, se développe une dimension de recherche scientifique. Dominique Vivant-Denon a eu évidemment un rôle fondamental sur lequel je ne m'appesantirai pas dans cette affaire. Et évidemment, cette dimension scientifique-là va révéler à la France et à l'Occident une Égypte qui jusque-là n'était pas ignorée, mais était assez méconnue. Et nous allons donc essayer de voir maintenant comment l'Égypte s'est petit à petit, notamment du fait de l'expédition dont nous venons de parler et de la campagne militaire que je viens d'évoquer, comment donc l'Égypte s'est petit à petit invitée dans le vocabulaire artistique de la France et de l'Occident de cette fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Pour nous permettre d'engager ce débat-là, nous allons nous intéresser à la figure d'Hubert Robert. Hubert Robert, qui est un artiste qui est d'autant plus intéressant qu'il a vécu à cheval entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Il est, j'allais dire, au cœur de cette période qui est celle de la campagne militaire que je viens d'évoquer. C'est donc un artiste tout à fait intéressant pour nous faire comprendre comment il va, si j'ose dire, digérer l'Égypte qui est petit à petit re-révélée d'une certaine manière à l'Occident. Simplement, et vous le voyez dans le titre qui est ici sur l'écran, l'Égypte que Hubert Robert va finalement regarder n'est pas forcément l'Égypte directe telle qu'elle est révélée par les savants, mais une Égypte qui va lui être avant tout révélée via l'Italie, mais de cela nous allons reparler dans un instant. Regardons d'abord un certain nombre d'œuvres de Hubert Robert. Hubert Robert qui naît à Paris en 1733, qui meurt en 1808, est un artiste essentiellement paysagiste et qui va travailler notamment de manière, j'allais dire, majoritaire, le domaine du paysage donc, mais surtout le domaine du caprice architectural. Ce qui intéresse Hubert Robert, ça n'est pas d'abord de réaliser des paysages réaliste. Il ne s'installe pas, Hubert Robert, à l'extérieur pour peindre ce qu'il voit de ses yeux. Hein. C'est d'ailleurs plus tard l'école de Barbizon qui, vous le savez, fera ce travail-là. Non, ce qui intéresse Hubert Robert, c'est plutôt de faire des paysages idéalisés. Et notamment, il se plaît beaucoup à réaliser nombre de caprices architecturaux, c'est-à-dire des paysages dans lesquels il ajoute des éléments d'architecture étudiés ici et là. C'est d'ailleurs le cas du tableau que je vous montre là. Le tableau que vous voyez ici est un tableau dans lequel Hubert Robert plante dans ce décor factice un certain nombre de monuments qu'il a pu voir ailleurs et qu'il compose là de manière artistique, mais de manière aussi parfaitement, j'allais dire, non réaliste. Et vous voyez que trône dans cette composition au centre une belle pyramide bien pointue qui est évidemment une référence à la forme égyptienne que nous connaissions et qui est là au centre même de la composition. Une composition qui sert d'ailleurs de prétexte à une scène historique dans laquelle Hubert Robert nous présente Alexandre le Grand devant le tombeau d'Achille. Vous savez que Alexandre le Grand conquérant, bien connu, quasi mythique, si j'ose dire, mais dont la figure historique est évidemment bien réelle, a fait l'objet, j'allais dire, de nombreuses divagations. On ne prête qu'aux riches, après tout. Et Alexandre le Grand aurait, au cours de sa courte vie et de ses grandes conquêtes, aurait visité les tombeaux de toutes les grandes figures héroïques qui ont pu le précéder. On relate, n'est-ce pas, une éventuelle visite d'Alexandre le Grand au tombeau d'Achille. C'est précisément le sujet de la scène qui nous est ici présentée, une scène dont l'exotisme est souligné par la présence de cette pyramide. Mais quand on regarde l'œuvre d'Hubert Robert, on peut voir que les pyramides sont très nombreuses. Voilà par exemple, mais plus discrètement présentées dans ce paysage qui s'appelle la fontaine de Minerve, on voit en effet un peu plus dans le lointain une pyramide toujours très abruptement pointue, si j'ose dire, et qui nous rappelle beaucoup d'ailleurs la pyramide précédente. Quelquefois, les pyramides tiennent, si vous permettez l'expression, le haut du pavé dans les œuvres de Hubert Robert. C'est le cas de cette fantaisie égyptienne bien nommée, n'est-ce pas, dans laquelle on voit deux massives pyramides, une au premier plan, une à droite dans le lointain, mais dans laquelle on voit également un obélisque. L'obélisque est avec la pyramide, et même deux obélisques. L'obélisque est avec la pyramide, chez Hubert Robert, le motif égyptien ou pourrait-on dire déjà égyptomaniaque, Hubert Robert est quelque part un maniaque de l'obélisque et de la pyramide. C'est donc l'obélisque comme la pyramide, un des motifs récurrents dans les travaux de Hubert Robert. Je ne vais pas aujourd'hui vous passer toutes les œuvres d'Hubert Robert avec des pyramides ou des obélisques, car nous ne serions pas sortis de l'auberge, n'est-ce pas? Je crains que l'après-midi ne s'épuise en cela. Voilà d'ailleurs un autre tableau de Hubert Robert qui résume bien, là aussi, cette permanence robertienne dans cette démonstration d'une Égypte faite de pyramides, d'obélisques. Vous devinez également à gauche un sphinx. Décidément, tout un vocabulaire venant de l'Égypte et qui montre le goût de cet artiste pour ces éléments-là. Si l'on prend d'ailleurs le cas de l'obélisque et qu'on essaie, j'allais dire, de manière un peu gourmande, de parcourir l'œuvre du peintre pour aller à la recherche de cet élément qui, décidément, l'intéresse de manière privilégiée, on trouvera de très, très nombreux tableaux qui reprennent ce thème. Voilà par exemple ici un paysage avec un obélisque. Mais je vous proposerai un portique avec un obélisque. Et si vous n'en avez pas assez, en revoilà. Voilà une scène plus urbaine avec de nouveau un obélisque. Et l'obélisque est chez Hubert Robert une telle, je dirais, obsession qu'il va quelquefois multiplier les scènes qui, sur un même schéma, reprennent toujours la même idée. Regardez par exemple cette ruine avec un obélisque qui est représenté, n'est-ce pas, au bout de cette perspective. Eh bien, vous trouvez la même à X reprises dans l'œuvre d'Hubert Robert. Voilà l'exemple d'un tableau conservé aujourd'hui au musée Pouchkine à Moscou, mais dans telle collection particulière, vous trouverez, il est bien proche du précédent, mais différent tout de même, une composition assez similaire. Et puis, si vous allez à Chicago, à l'Art Institute, rebelote, vous verrez à nouveau une composition assez similaire, avec toujours un grand escalier dans des ruines antiques et comme débouché de celle-ci, un obélisque se dressant. Vous voyez qu'il y a vraiment une volonté de cet artiste de travailler ce motif, évidemment égyptien, plus que récurrent dans l'œuvre de cet artiste. Mais au-delà de la pyramide et de l'obélisque, dont on pourrait dire presque qu'elles encombrent les vues de Hubert Robert, il est des détails égyptiens un peu plus discrets, mais qui n'en sont pas moins fort efficaces. Par exemple, dans cette scène qui représente d'innocents lavandières, on pourrait se croire, car nous sommes à Rome ici, hein, je tiens à repréciser que Hubert Robert est un artiste certes français, mais qui a passé un certain nombre d'années à Rome. Ce tropisme romain apparaît bien évidemment dans toutes les œuvres que je vous ai montrées, mais aussi dans le tableau que vous voyez ici, qui nous montre des lavandières sans doute plus romaines que, si j'ose dire, hexagonales. Eh bien, dans cette scène toute innocente, vous voyez tout de même à gauche un lion qui n'est pas un lion occidental, mais bien un lion parfaitement égyptien. Vous voyez que, décidément, Hubert Robert, même quand il montre les activités pittoresques, mais triviales, de deux lavandières, ne peut pas s'empêcher de convoquer à nouveau l'Égypte. Idem d'ailleurs, par exemple, dans ce dessin, car les dessins sont également, pour Hubert Robert, un champ où l'Égypte apparaît, de façon parfois un petit peu plus modeste, encore une fois, mais si vous regardez bien la partie gauche de cette vue, vous verrez là une fontaine dotée à nouveau de deux lions de titre égyptien, et là, d'une figuration de quelque Isis antique, vraiment, Hubert Robert, vous le voyez, récidive à l'intérieur de ses dessins. Alors, ces préoccupations, cette obsession robertienne n'est pas, à vrai dire, que robertienne. Hubert Robert n'est pas le seul artiste qui, dans l'Europe de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle, intègre, instille à l'intérieur de ses œuvres des détails égyptiens, obélisques, pyramides, voire lions égyptiens. D'autres artistes font de même. Il en est un en particulier que Hubert Robert a d'ailleurs pu rencontrer, ou dont il a en tout cas rencontrer les œuvres, c'est Giovanni Paolo Pannini. Pannini est un paysagiste actif à Rome, en gros au milieu du XVIIIe siècle. Lui aussi est donc un paysagiste ruiniste. Lui aussi crée, comme Hubert Robert, n'est-ce pas, des caprices architecturaux. Lui aussi, comme Hubert Robert, et Hubert Robert, comme Pannini, choisit à Rome ou en Italie des éléments antiques, plus ou moins ruinés, et qu'il s'amuse à recomposer dans des paysages qu'il invente totalement, comme par exemple ce caprice architectural, quitte quelquefois, pour lui donner un prétexte, à peupler ces caprices-là de quelques personnages qui s'adonnent à telle ou telle fonction. Par exemple, ici, vous voyez au centre un prédicateur, n'est-ce pas, qui est en train de prêcher, comme tout prédicateur, à des personnages qui l'entourent dans des ruines antiques. Vous voyez qu'il y a ici, finalement, une idée très semblable à celle que Hubert Robert lui-même développera. Et vous remarquez que, comme Hubert Robert, Pannini nous propose ici, dans cette vue où il intègre des monuments romains, dans le fond à gauche, une pyramide, au-devant de la vue à droite, un obélisque, c'est-à-dire toute une série d'éléments qui parlent de l'Égypte de manière évidente au regard du XVIIIe siècle, et qu'il intègre à sa vue. Alors là aussi, je ne vais pas vous passer toutes les œuvres de Pannini qui ont été tant regardées par Hubert Robert, mais en voilà un autre caprice architectural dans lequel vous reconnaissez au centre le Panthéon, dans lequel vous reconnaissez à droite la colonne Trajane, dans lequel vous reconnaissez au centre la fameuse statue de Marc Aurèle du Capitole, un peu à droite le temple de Vesta à Tivoli, mais à gauche, bien entendu, un obélisque. Il faut tout de même sa dose d'Égypte, si j'ose dire, à Pannini, comme à Hubert Robert. Décidément, il y a là, vous le voyez, chez un certain nombre de ces artistes ruinistes du XVIIIe siècle, italiens ou français, un tropisme égyptien qui apparaît dans la convocation de ces motifs absolument égyptiens que sont la pyramide et l'obélisque. Il est vrai que quand on est un artiste français ou italien, dans cette Rome du XVIIIe siècle, on a en permanence l'Égypte sous les yeux. L'Égypte, elle apparaît de manière immanquable aux artistes qui parcourent la ville. D'ailleurs, je vous montre ici un dessin de Charles-Joseph Natoire, un peintre français du XVIIIe siècle, mais qui a été directeur de l'Académie de France à Rome pendant un temps. Et Natoire nous fait rentrer ici dans la cour intérieure du musée du Capitole à Rome. Et vous voyez que cette vue intérieure nous montre au premier plan une grande statue, soit égyptienne, soit égyptisante, je vais revenir là-dessus dans un instant, qui montre bien, n'est-ce pas, que les galeries, les collections de la cité, tout comme la ville elle-même, n'est-ce pas, cette cité est parcourue, est encombrée réellement, hein, pas seulement dans les tableaux, de formes égyptiennes. L'Égypte, on la rencontre finalement partout à Rome, Natoire nous le montre dans cette vue du musée du Capitole. Notez que de toute façon, les objets égyptiens sont bien nombreux dans cette ville de Rome au XVIIIe siècle. Par exemple, parmi une des œuvres très célèbres pour tous les artistes hein, de cette Rome du XVIIIe siècle à sujet égyptien, il y a cette statue qui représente Antinous. Antinous, vous le connaissez, c'est le favori de l'empereur Hadrien. C'est que Antinous a eu le malheur en Égypte de se noyer dans le Nil. Et cette perte d'Antinous pour Hadrien a été extrêmement douloureuse, à tel point que l'empereur Hadrien a souhaité faire d'Antinous une sorte de divinité, et une divinité, je dirais, favorable, qu'il a décidé de relier à une autre divinité égyptienne, s'il en est, et favorable, s'il en est, qui est Osiris. Vous savez qu'Osiris est une divinité de la mort et de la renaissance. Hein. Vous savez que Osiris a été coupé en morceaux par son frère, mais que Isis, la femme d'Osiris, a rassemblé les morceaux d'Osiris, qui ainsi a pu renaître, hein. Et d'ailleurs, en faisant ce geste, en rassemblant les morceaux coupés d'Osiris, Isis a en fait momifié, en quelque sorte, Osiris, et cette momification a permis à la Renaissance. Si les Égyptiens de l'Antiquité momifient, c'est pour reproduire le geste d'Iris, hein, d'Isis, pardon, pour, à leur tour, en momifiant, permettre ce qu'Isis a permis pour Osiris, c'est-à-dire la résurrection, en quelque sorte. Eh bien, Hadrien décide de faire d'Antinous son favori, noyé dans les eaux du Nil, un nouvel Osiris, la figure que vous voyez là est justement une sculpture découverte à côté de Rome, à Tivoli, dans un site où Hadrien avait construit sa fameuse Villa Hadriana. Et dans la Villa Hadriana, il y avait tout un secteur égyptien qui s'appelait d'ailleurs le Canop. Et dans ce secteur égyptien de la Villa Hadriana se trouvait notamment une statue d'Antinous Osiris, son favori, n'est-ce pas, déifié, que vous voyez ici. Vous voyez que cette statue, elle date de l'époque romaine, elle date du IIe siècle après Jésus-Christ, mais reprend à l'époque romaine de manière évidente des thématiques de l'Égypte antique. Et parmi, évidemment, le côté très égyptien de cette sculpture, il y a, n'est-ce pas, le pshent, c'est-à-dire la coiffure elle-même, mais également le pagne et puis la pose elle-même de cette sculpture. Cette sculpture a été réalisée par des artistes romains du IIe siècle après Jésus-Christ, mais de manière complètement traditionnellement égyptienne. On a donc ici non pas une statue égyptienne, mais une statue égyptisante. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, finalement, nos artistes du XVIIIe siècle, Panini, Hubert Robert, quand ils divaguent dans Rome et qu'ils regardent ces objets venant d'Égypte, ils regardent des œuvres quelquefois véritablement égyptiennes, ramenées d'Égypte, parfois dès l'Antiquité, et présentées à Rome, mais ils regardent également, ils étudient des œuvres qui ne sont pas égyptiennes, mais qui datent de l'époque romaine, et qui sont des copies romaines d'après l'Égypte antique. C'est le cas de l'Antinous que vous avez là. Donc l'Égypte qui est regardée par un Hubert Robert au XVIIIe siècle est une Égypte égyptienne, mais aussi une Égypte égyptisante, comme vous le voyez à travers cette sculpture. Notez d'ailleurs que dans certains lieux de Rome, l'Égypte est présente de manière évidente et très quotidienne. Vous reconnaissez ici l'escalier de la Cordonata qui mène, bien sûr, à la fameuse place du Capitole. Et vous reconnaissez l'emplacement où d'ailleurs trône ici la statue de Marc Aurèle. Mais de chaque côté de cet escalier de la Cordonata, ici, n'est-ce pas, en bas, à droite et à gauche, figurent deux lions en basalte égyptiens datant de l'époque ptolémaïque. Ils ont été amenés à Rome certainement dès l'Antiquité égyptienne. Ils datent sans doute d'une période entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère. Ce sont des œuvres véritablement égyptiennes et que l'on voyait tous les jours dans la Rome du XVIIIe siècle. ce genre d'œuvres vraiment égyptiennes placées dans la ville étaient fréquentes dans le quotidien des artistes. D'ailleurs, certains artistes ont représenté ces lions. Je vous montre là, ici, une terre cuite appartenant au musée de Besançon, due à François-Nicolas de Lettres, qui est un sculpteur du XVIIIe siècle, qui est passé notamment par Rome. Et vous voyez comment ici, il reproduit en terre cuite l'un des lions de l'escalier de la Cordonata. Pour les artistes, notamment français, qui vivent à Rome au XVIIIe siècle, l'Égypte est partout présente, soit par des œuvres égyptiennes elles-mêmes, comme les lions de la Cordonata, soit par des œuvres antiques égyptisantes, comme l'Antinoüs que nous venons de voir. Notez d'ailleurs que, au XVIIIe siècle, un certain nombre d'artistes, notamment italiens, ne se sont pas privés de divaguer de manière égyptisante. Par exemple, Piranèse, le fameux grand Piranèse, l'auteur de ces gravures que l'on appelle les prisons, vous connaissez sans doute, hein, avait réalisé pour un café de la Piazza d'Espagne, de la place d'Espagne à Rome, des décors néo-égyptiens qui n'existent plus aujourd'hui, mais dont on connaît les gravures les reproduisant, dont celle que vous voyez ici. Cette gravure vous montre le décor égyptisant conçu par Piranèse pour ce café des Anglais de la place d'Espagne, et vous voyez à quel point, à travers les animaux déifiés qui se trouvent, la pyramide, les figures, les hiéroglyphes, n'est-ce pas, on a là un décor égyptisant. On voit bien que vraiment l'Égypte est un peu mise à toutes les sauces, elle est très présente dans des œuvres égyptiennes ou égyptisantes, antiques ou plus récentes. D'ailleurs, quand vous passez les murs de Rome, et notamment le mur d'Aurélien, vous découvrez la fameuse pyramide de Cestius. La pyramide de Cestius est une pyramide qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui a été intégrée à la muraille d'Aurélien au moment de la construction de ce mur. Et cette pyramide qui date du 1er siècle, n'est-ce pas, est en fait un tombeau qui montre bien d'ailleurs que dès l'Antiquité romaine, hein, on connaissait déjà évidemment l'Égypte. Après tout, l'Égypte fait partie de l'Empire romain, je vous le rappelle. Hein. Ce qui fait que, évidemment, quand on se construit un tombeau dans la Rome antique, on peut lui donner une tournure égyptienne. On sait que les pyramides d'Égypte sont des tombeaux. Alors qu'on s'appelle Marcus Sextus, on peut se faire construire une pyramide, ou plus exactement un tombeau en forme de pyramide. C'est celle que vous voyez ici. Et d'ailleurs, et je vous remontre ici un dessin d'Hubert Robert, quand Hubert Robert peuple ces vues que je vous ai montrées tout à l'heure, ou encore le dessin que vous voyez là de pyramide, c'est à vrai dire plutôt sans doute une référence, non pas aux pyramides d'Égypte qu'il n'a jamais vues, Hubert Robert n'est jamais allé en Égypte, hein, mais plutôt à la pyramide de Cestius, bien pentue, n'est-ce pas, plus que les pyramides d'Égypte, à laquelle il fait référence. Notez d'ailleurs que cette pyramide de Cestius, chantée par Hubert Robert dans des compositions telles que celle-ci, va petit à petit s'exporter hors d'Italie, vers la France. Je vous montre ici une chose bien française et bien hexagonale, c'est-à-dire la pyramide du parc Monceau. Vous savez que le parc Monceau à Paris était naguère le parc de la propriété du duc de Chartres. Et c'est un artiste dont on parlait hier dans l'atelier d'histoire de l'art, qui s'appelle Louis Carogil Carmontel, qui a réalisé l'installation du parc Monceau, qui aujourd'hui a été en partie d'ailleurs revue et détruite. Mais il y a dans le parc Monceau aujourd'hui une pyramide qui date du XVIIIe siècle, faite par Carmontel. C'est une fabrique d'origine qui reprend toujours, n'est-ce pas, cette idée de la pyramide et de la pyramide de Cestius, chantée par Hubert Robert, et qui est finalement une référence à celle-ci. Je préciserai enfin que cette idée, n'est-ce pas, de l'Égypte, que l'on voit si présente dans cette Rome de la fin du XVIIIe siècle, avec Panini, avec Hubert Robert et bien d'autres, dans une Rome qui est farcie de références à l'Égypte, cette idée-là n'est pas nouvelle. Après tout, je vous montre ici un tableau de Nicolas Poussin, datant du milieu du XVIIe siècle. Et que voyez-vous dans ce tableau de Nicolas Poussin? Vous voyez déjà toute une série de références égyptiennes. On voit là une pyramide, en voilà une autre là, on devine un obélisque, jusqu'à un sphinx qui se trouve ici présent, et même un sistre là. Il est vrai que la scène montrée est celle de Moïse sauvé des eaux. Mais on aurait pu, après tout, montrer cette même scène d'une manière très occidentale. Et d'autres artistes du temps ne s'en sont pas privés. Vous voyez donc que dès le XVIIe siècle, un certain nombre d'artistes comme Nicolas Poussin intègrent à leur vocabulaire, notamment pour des scènes se passant en Égypte, un décor, des éléments absolument égyptisants qu'ils ont pu voir à Rome à travers de véritables œuvres égyptiennes transportées dès l'Antiquité à Rome ou à travers des œuvres romaines égyptisantes fabriquées en Italie d'après des modèles égyptiens. Vous noterez d'ailleurs qu'un peu plus tard, au début du XVIIIe siècle, un autre artiste, comme Licona de l'Argilière, qui lui aussi a eu ses accointances romaines, hein, représente, dans cet autre épisode de Moïse sauvé des eaux, un sphinx ici bien présent. Ce tropisme égyptien n'est donc pas une apparition absolument nouvelle de la fin du XVIIIe, mais une sorte de tradition qui finalement existe, un peu douce et, j'allais dire, feutrée au XVIIe siècle, mais elle se développe tout de même. Elle va simplement se développer, éclore au XVIIIe siècle de manière évidente. Vous noterez que, au-delà d'Hubert Robert, d'autres artistes français du temps vont travailler ce regard sur l'Égypte antique. Je vous montre par exemple ici un tableau de François Gérard, qu'on appelle souvent le Baron Gérard, et qui nous montre, nous sommes en 1789, Joseph reconnu par ses frères. Voyez comment ici Gérard va, si j'ose dire, plus loin que ne le fait Hubert Robert. Hubert Robert, après tout, dans ses tableaux, se contente de mettre ici un obélisque, là une pyramide, de placer quelques lions ici et là, ou sphinx, pour donner une tour égyptienne à ses compositions. Là, vraiment, Gérard va égyptiser la scène d'une manière, j'allais dire, plus archéologique. Hein. Remarquez, par exemple, le costume de Joseph à gauche, ou les hiéroglyphes qui s'alignent sur une architecture qui est reprise, n'est-ce pas, d'après des exemples égyptiens. De la même manière, voilà ici une œuvre de Pierre-Henri de Valenciennes, qui lui aussi est passé par l'Italie, et qui nous montre Alexandre le Grand devant le tombeau non plus d'Achille, comme tout à l'heure, mais de Cyrus le Grand. On dit en effet qu'Alexandre le Grand est allé voir, mais je vous l'ai dit, hein, Alexandre le Grand a fait le tour des tombeaux héroïques du Proche-Orient. Il est allé voir le tombeau de Cyrus. Il a d'ailleurs été, notez-le, très choqué, parce que le tombeau de Cyrus, quand il va le voir, avait été pillé. Hein, d'ailleurs, vous le remarquez. Vous voyez ici Alexandre le Grand qui gesticule parce qu'il est très choqué de voir que la tombe de Cyrus le grand empereur perse, que vous savez, a été visiblement enfoncée. D'ailleurs, son sarcophage a été, vous le voyez, en partie sorti. On a pillé la tombe. Voilà d'ailleurs ici la porte de la tombe qui est mise de côté. La légende dit d'ailleurs que Alexandre a été tellement choqué de voir ce tombeau héroïque pillé qu'il a demandé de faire supplicier et exécuter les personnes qui étaient chargées de s'occuper de la garde du tombeau. Et vous voyez ici que les gardes d'Alexandre ramènent un des personnages qui était chargé de cette garde du tombeau de Cyrus et qui sera bientôt mis à mort. En tout cas, ce qu'il y a d'amusant, c'est que vous voyez comment Pierre-Henri de Valenciennes fait dans cette œuvre, qui se passe non pas en Égypte, hein, mais en Perse, hein, fait dans cette œuvre quelques inclusions égyptiennes. On voit là un obélisque et l'entrée du tombeau de Cyrus n'est pas trop persane, mais vraiment bien égyptienne. De la même manière, Louis Gauffier, grand artiste français qui a volontiers travaillé en Italie, nous propose ici une entrevue d'Auguste et Cléopâtre, la reine d'Égypte. Et vous voyez comment ce tableau, qui date de la fin du XVIIIe siècle, apparaissent dans le fond en particulier des figures très égyptisantes. Vous reconnaissez d'ailleurs là la citation de l'Anténoüs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Vous vous rappelez de la sculpture d'Anténoüs du musée du Vatican que je vous ai montré? Eh bien, elle est ici intégrée par Gauffier à l'intérieur de cette vue. Le même Gauffier proposera d'ailleurs quelques années plus tard ce repos de la Sainte Famille en Égypte, et puisque la Sainte Famille est en Égypte, eh bien il fallait de l'Égyptien. Et voyez comment Gauffier représente cette Sainte Famille devant un temple égyptien. Vous devinez ici toute une série de hiéroglyphes. Vous reconnaissez ici cette architecture typiquement égyptienne, d'une sorte de kiosque égyptien. Vous voyez que décidément ce tropisme, ce regard sur l'Égypte est très important à travers les artistes français. On voit même sur la droite, dans le lointain, n'est-ce pas, une pyramide qui apparaît. Il n'est pas jusqu'à notre cher Guillaume Boischaut. Vous connaissez tous Guillaume Boischaut, c'est un chalonnaise, là, hein. Vous connaissez tous Guillaume Boischaut, et vous connaissez tous par cœur les sculptures de Guillaume Boischaut qui sont conservées au musée de Nantes, bien entendu, hein. Si ça n'est pas le cas, vous foncez tout de suite au musée pour les revoir, car je ne veux pas croire, vous ne les avez jamais vus. Guillaume Boischaut est un des grands sculpteurs néoclassiques en France à la fin du XVIIIe siècle. Ne l'oublions pas. Eh bien, Guillaume Boischaut réalise, et cette œuvre est aujourd'hui conservée au musée Rollin à Autun, cette pompe isiaque, c'est-à-dire un défilé en l'honneur d'Isis, et vous voyez qu'on est en train de faire défiler sur quelques pavois une divinité égyptisante. Bref, l'Égypte est à la mode. D'ailleurs, je vous montre ici, la photo n'est pas très bonne, une œuvre de Moreau le Jeune, représentant une scène d'initiation chez les Égyptiens, car il est intéressant de voir comment ce regard sur l'Égypte, dont vous voyez qu'il est très développé finalement, beaucoup plus qu'on l'imagine, et avant même ou au moment même de la fameuse campagne d'Égypte. Toutes les œuvres que je vous montre là sont des œuvres réalisées avant ou pendant l'expédition de Bonaparte en Égypte. Eh bien, vous voyez comment dès avant, n'est-ce pas, cette ouverture du verrou égyptien, d'une certaine manière, l'Égypte est finalement relativement déjà très présente. Et très souvent, d'ailleurs, l'Égypte est vue d'une manière un peu occulte, étrange, bizarre, voire maçonnique. Mais vous connaissez tous la flûte enchantée de Mozart, hein. Vous savez à quel point cet opéra-là est aussi un opéra maçonnique. Eh bien, la scène d'initiation chez les Égyptiens que vous voyez là est pour Moreau le Jeune aussi une allusion à ces questions maçonniques, tellement d'ailleurs à la mode chez les gens cultivés de cette fin du XVIIIe siècle. Certains artistes, en particulier Després, un artiste bourguignon, que les bourguignons méconnaissent largement d'ailleurs, il est né à Auxerre, et bien Després est un des artistes les plus intéressants qui illustre cette dimension d'un regard à la fin du XVIIIe siècle sur une Égypte bizarre, étrange, curieuse, une Égypte, j'allais dire, momifère. Il nous représente ici, d'ailleurs, une sorte de momie assise dans quelques tombeaux. Vous noterez d'ailleurs la présence des hiéroglyphes, n'est-ce pas, qui s'alignent sur le sarcophage. Et d'ailleurs, un autre artiste très important de l'époque, Boulez, qui fait partie de ces artistes utopistes de la fin du XVIIIe siècle que vous connaissez bien et dont Ledoux est évidemment un autre représentant, va beaucoup s'intéresser à ces formes égyptiennes. Il nous propose ici un projet de cénotaphe en forme de pyramide tronquée. On voit bien comment il y a là un regard qui va, j'allais dire, du simple pittoresque, on pose ici ou là une pyramide, un obélisque, c'est toujours joli à voir, jusqu'à des dimensions qui sont plus philosophiques, plus idéologiques, je dirais. C'est le cas avec Boulez, par exemple. Et il est du reste intéressant de voir comment la Révolution française va, à la fin du XVIIIe siècle, en quelque sorte sacrer l'Égypte comme une sorte de support des idées nouvelles qu'elle amène. Il est par exemple tout à fait caractéristique de voir que sur les ruines de la Bastille, on va construire en 1793 une fontaine de la Régénération. Vous voyez d'ailleurs sur cette gravure qui nous montre la dite fontaine, à gauche, les restes ruinés de la Bastille, mais au centre, n'est-ce pas, la fontaine de la Régénération, qui n'est rien d'autre qu'une sorte de d'antinous égyptien, n'est-ce pas, femelle, dont les seins abreuvent la coupe de quelques héros révolutionnaires de chaque côté de deux lions égyptisants. Vous voyez que l'Égypte est, pour les Français de la fin du XVIIIe siècle, pas seulement un élément pittoresque qui donne un peu d'exotisme, pas seulement non plus quelque chose qui évoque une sorte d'étrangeté un peu philosophique, mais quelque chose qui vient également mailler le politique. Mais je vous propose d'aborder un deuxième, ou plus exactement un troisième petit chapitre, qui est celui du retour d'Égypte. Parce que je vous ai parlé de la campagne et de l'expédition d'Égypte. Nous avons vu comment, avant même l'expédition d'Égypte, avec Hubert Robert, Panini et bien d'autres, l'Égypte était présente dans les arts, et notamment dans la peinture de la France et de l'Europe du temps, de manière directe ou plutôt, le plus souvent, via ce que Rome offre aux Égyptiens. Mais évidemment, avec l'expédition d'Égypte, les choses vont, j'allais dire, se précipiter, et on va assister à partir du tout début du XIXe siècle, des premières décennies, à un épanouissement du goût égyptien qui est dû, bien sûr, à ce que j'évoquais déjà tout à l'heure, c'est-à-dire le travail des savants égyptiens, et notamment de Dominique Vandenon. Vous connaissez évidemment ce dessin fameux de Benjamin Zix, qui est un portrait allégorique de Dominique Vandenon. Vous reconnaissez notre cher Denon ici, environné dans cette sorte de caverne antiquisante de quantité d'éléments, notamment des éléments égyptiens qui l'entourent. Dominique Vandenon, c'est bien entendu celui qui, à travers les travaux qu'il va réaliser ou qu'il va accompagner, celui qui révèle, mais cette fois de manière sérieuse, scientifique et directe, plus par l'intermédiaire de Rome, si vous voulez, qui révèle véritablement, de manière savante, l'Égypte à la France et à l'Europe. Cette révélation égyptienne en France va être accompagnée de la création au Louvre, qui devient le grand musée que vous savez, d'une section égyptienne. Jusque-là, l'Égypte n'apparaissait pas trop dans un musée du Louvre qui, de toute façon, n'existait pas vraiment. Mais au début du XIXe siècle, dans les premières décennies du XIXe, on crée au Louvre un musée égyptien. Qui dit création d'un musée égyptien au Louvre, dit création d'un décor correspondant. Alors l'État va commander à un certain nombre d'artistes français des premières décennies du XIXe siècle toute une série de décors, notamment pour orner les plafonds du Louvre. D'ailleurs, au Louvre, quand vous allez voir les chaises égyptiennes, regardez certes les vitrines, mais levez le nez, si j'ose dire, et les yeux surtout, car vous verrez ces plafonds en question commandés au début du XIXe siècle pour orner ce musée égyptien. Voilà par exemple ici un tableau, une peinture collée au plafond de Denis Abel de Pujol représentant l'Égypte sauvée par Joseph. Et vous voyez là comment au pittoresque égyptisant de Panini ou de Robert se substitue, et de manière cette fois scientifique, un regard sur l'Égypte où l'architecture égyptienne est littéralement pompée, si vous permettez l'expression, sur l'expédition d'Égypte du vivant de nom, jusqu'au costume, n'est-ce pas, des différents personnages, et notamment du Joseph qui trône à droite de cette composition. Léon Cogniet va être également un des artistes qui va être convoqué pour réaliser ces plafonds égyptiens du Louvre. Léon Cogniet, par parenthèse, c'est à lui que l'on doit le fameux portrait de Champollion. Vous savez, il y a un portrait de Champollion qu'on connaît, qu'on voit tout le temps. Il est dû à Léon Cogniet. Léon Cogniet était un proche, si j'ose dire, de Champollion. C'est à lui qu'on a commandé ce tableau dont vous voyez ici l'esquisse, mais dont voilà le plafond définitif au Louvre, et qui représente l'expédition de Bonaparte en Égypte. Vous voyez au centre Bonaparte, n'est-ce pas, qui dirige cette expédition des savants d'Égypte. On est même en train ici de sortir un sarcophage avec une momie de quelques tombeaux égyptiens. Voilà donc une esquisse pour un autre des plafonds du Louvre. D'ailleurs, le Louvre commandera encore un troisième plafond pour ce musée égyptien, dont vous voyez ici l'étude, dont je vous montre là le plafond définitif. Ce plafond est dû à Édouard Picot, et il représente, chose intéressante, l'étude et le génie. Vous remarquez ici ces deux figures allégoriques de l'étude et du génie, qui présentent à Athènes est ici, l'Antique Égypte. L'Antique Égypte est ici dévoilée, avec des angelots sont en train de retirer le voile sur l'Antique Égypte. C'est un thème évidemment important qui montre comment Athènes, mais également, c'est en sous-texte, la France, Paris d'une certaine manière, découvre enfin une civilisation millénaire qui était très ignorée, à part, encore une fois, les petits éléments qu'on pouvait découvrir à travers l'Italie, à travers Rome, découvre complètement une civilisation multimillénaire, la civilisation égyptienne. C'est vraiment un choc, une découverte nouvelle qui est finalement bien illustrée par ce plafond. Notez que d'autres artistes de ce début du XIXe siècle travaillent cette question égyptienne. L'un d'eux, Adrien Guignet, est intéressant pour nous autres bourguignons parce que Adrien Guignet a fait une grande partie de sa courte carrière à Autun. D'ailleurs, au musée Rolin d'Autun, vous verrez la plus belle collection d'œuvres d'Adrien Guignet. Et c'était Adrien Guignet qu'on doit notamment ce tableau représentant Cambyse et Psaménite. Vous connaissez peut-être cet épisode. Psaménite est un pharaon, Cambyse est un souverain perse, et il se trouve que Cambyse a réussi à conquérir l'Égypte à l'époque du pharaon Psaménite. Et Cambyse, vous le voyez ici représenté sur ce tableau. Et pour humilier le pharaon Psaménite, Cambyse va décider non seulement de ligoter Psaménite, vous voyez le pauvre Psaménite qui est ici les mains liées, n'est-ce pas, assis devant son conquérant, si j'ose dire, et Cambyse va faire passer devant Psaménite la foule des Égyptiens vaincus, à la tête desquels se trouve la propre fille de Psaménite, qu'on voit ici avec son pchent, et qui tient une cruche comme une humble servante. C'est vraiment l'humiliation de Psaménite que Cambyse est en train ici d'organiser. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce tableau d'Adrien Guignet, qui nous montre force pyramide et obélisque, et pas obélix, vous avez là la représentation d'une grande statue qui est en fait la copie réalisée par Adrien Guignet d'après une petite statuette du musée du Louvre. On voit bien comment le Louvre devient, après les travaux de l'expédition d'Égypte et des ouvrages dirigés par Denon, l'Égypte devient véritablement un objet scientifique bien connu des peintres qui s'en inspirent. D'ailleurs, Adrien Guignet va récidiver, notamment dans ce tableau du musée de Rouen, représentant Joseph, expliquant les rêves de Pharaon. Vous voyez bien comment, n'est-ce pas, les ouvrages de Denon et la visite des salles du Louvre a pu intéresser le jeune artiste dans la représentation d'une vue telle que celle que vous voyez là. Notez d'ailleurs que Adrien Guignet fait partie de cette époque romantique qui s'intéresse évidemment beaucoup à la couleur locale. Vous savez que les romantiques ont plusieurs cordes à leur arc. Ils s'intéressent à l'idée de la nature, à la prégnance de la mort. Ils s'intéressent à mille choses, les romantiques, mais aussi à la couleur locale, à l'étrangeté. Alors l'Égypte devient pour eux évidemment un des domaines de prédilection qu'ils vont bien sûr labourer. La mort de Cléopâtre devient bien entendu un thème romantique par excellence. Voilà un tableau appartenant aussi d'ailleurs au musée d'Autun, représentant la mort de Cléopâtre, un tableau très romantique, salué par Baudelaire d'ailleurs, qui nous montre le goût des romantiques pour ce genre de scène. La France n'est pas le seul lieu où l'Égypte ainsi va petit à petit éclore. C'est le cas aussi en Angleterre. Voilà par exemple un grand tableau de Turner évoquant la cinquième plaie d'Égypte. Vous noterez d'ailleurs l'extrême romantisme de cette œuvre. Turner n'est pas le seul. John Martin, dès 1823, réalise non pas la cinquième, mais la septième plaie d'Égypte. Or, je ne peux vous dire à quel désastre correspond telle plaie. Je crois que la cinquième, c'est la grêle. La septième, c'est peut-être les grillons, je ne sais plus. En tout cas, vous voyez qu'il se passe des choses épouvantables dans ces tableaux suffisamment romantiques et catastrophistes que vous voyez ici. Les Anglais vont aller parfois vers des vues un peu plus calmes, notamment dans cette vue datant de 1829 de David Roberts, on nous montre dans une vue plus apaisée un événement qui ne l'est pas trop d'ailleurs, puisque c'est le départ des Israélites d'Égypte. Parenthèse, vous remarquez comment cette peinture qui date de 1829, début du 19e, on est en pleine époque romantique, va un siècle plus tard faire travailler l'esprit d'un Cécile B2000 dans les fameux grands péplums égyptiens que vous connaissez. Les grands inventeurs d'Hollywood ont certes inventé, mais ont aussi beaucoup regardé du côté de ces peintures égyptisantes. Vous le voyez dans un tableau tel que celui-ci. Vous le voyez aussi dans un tableau tel que celui-là, de Sir Edward John Poynter, un tableau plus tardif, représentant Israël en Égypte. Vous voyez ici qu'on est en train d'amener vers quelques temples un énorme colosse représentant un lion égyptien. Eh bien, là aussi, vous voyez comment les grands cinéastes américains du début du XXe siècle ont regardé de très près, et on aurait des citations très précises à montrer et à mettre en parallèle. Notez que d'autres territoires de l'Europe, je pense à l'Italie, ne sont pas en reste. Voilà, par exemple, une œuvre de Farufini qui représente un sacrifice égyptien d'une vierge au bord du Nil, gravure dont Farufini a également fait d'ailleurs un tableau. Et voilà une œuvre d'un artiste états-unien. On parle peu de la peinture américaine du 19e. Eh bien, voilà une. Un artiste s'appelle Eliu Vedder, je suis pas sûr qu'il soit très connu en France, représentant, c'est assez amusant, l'homme qui questionnait le sphinx. Vous voyez que Vedder ici va, si j'ose dire, retourner le mythe du sphinx. Vous savez, Œdipe et le sphinx. C'est le sphinx qui pose des questions à Œdipe. Là, c'est l'inverse. C'est une sorte d'Œdipe moderne qui pose des questions au sphinx. Il y a là une sorte de manière, au milieu du 19e, ce tableau est assez tôt, n'est-ce pas, de retourner le grand mythe antique. Je précise, enfin, pour en terminer avec ce chapitre et avant d'aborder le dernier, que parallèlement à ces travaux picturaux que je vous résume, il faudrait, mais ce n'est pas du tout le bout de cette séance, et ce serait évidemment beaucoup trop long, évoquer le fait que dans les arts décoratifs, et je vous montre ici un encrier égyptien, la même égyptomanie va être à l'œuvre. Je pourrais vous montrer des meubles, des papiers peints, des objets, toutes sortes de choses, totalement inspirés, malaxés par ce goût de l'Égypte. Je vous montre ici qu'un seul et rapide exemple qui nous montre que vraiment ce goût pour l'Égypte et l'Égypte de plus en plus regardée réellement, scientifiquement, à travers de l'héritage denonien, va s'imposer. Alors, pour conclure cette séance, Et en abordant ce quatrième et dernier chapitre, je dirais que après toute cette première moitié du XIXe siècle, jusque dans les années 60-65, où on va voir éclore ce goût égyptien, eh bien on va remarquer que la fin du XIXe et le début du XXe siècle va transformer l'essai. On va remarquer en effet que cette mode va non seulement être confirmée, mais qu'on va voir que ce goût de l'Égypte, que cette égyptomanie va être littéralement plébiscitée, explique pourquoi, jusqu'à nous, en plein XXe et début du XXIe siècle, l'Égypte résiste, mais depuis longtemps, à cette espèce de mode qui a été créée selon le calendrier que nous sommes en train, justement, de voir aujourd'hui. Par exemple, en France, on voit, dans les années, à la fin des années 60, un artiste comme Bouvier qui réalise cet athlétique jeune Égyptien. Mais on voit aussi que la peinture française de la fin du XIXe s'intéresse à l'Égypte à travers des scènes dramatiques, étranges. Mais cette Égypte étrange, on l'a déjà vu surgir un siècle avant, à la fin du XVIIIe. Voilà par exemple ici un tableau de Lecomte de Nouilly représentant les porteurs de mauvaises nouvelles. Vous voyez que Pharaon vient de faire, là, exécuter quelques esclaves. On voit encore ici une sorte de cimetière ensanglanté, des esclaves qui ont eu le tort de ramener à Pharaon quelques mauvaises et funestes nouvelles. Parfois, et c'est d'ailleurs un des éléments du vocabulaire égyptisant très goûté à la fin du XIXe siècle en France, le sphinx fait à nouveau une apparition en force. Voilà par exemple un très beau tableau de Luc-Olivier Merson, que Merson vous connaissez sans doute, c'est lui qui a peint les fameuses compositions de l'escalier de l'Opéra Comique à Paris. Eh bien Luc-Olivier Merson, nouveau ici, ce repos en Égypte, avec ce motif très poétique de la Vierge et l'Enfant, qui se repose entre les bras du sphinx. Joseph, lui, s'est retiré un peu plus bas, n'est-ce pas ? Qui se repose entre les bras du sphinx au moment de leur fuite en Égypte. Le sphinx qui apparaît aussi sous le pinceau de Jean-Léon Gérôme, notre voisin de Vesoul, avec ce face-à-face tout à fait remarquable qui nous montre deux sphinx, n'est-ce pas ? Le sphinx antique, le fameux sphinx de Gizeh, mais en face de Gizeh, et en face, le sphinx français, Napoléon Bonaparte, dont nous avons déjà parlé. Le sphinx apparaît même jusque dans des allégories complètement contemporaines. Vous voyez ici cet étonnant tableau de Gustave Doré, qui date de 1071, mais qui montre le drame de 1070. 1710, c'est une année vraiment difficile. On voit d'ailleurs Paris qui flambe, n'est-ce pas, à l'arrière. Mais au premier plan, vous voyez toutes sortes de cadavres, une femme et un enfant, un militaire, que sais-je encore, un cuirassier. Et là, vous voyez un sphinx et une sorte d'allégorie angélique, qui, là aussi, est en train de poser la question au sphinx, de quoi est fait l'avenir. Un tableau étonnant. Et vous voyez que là, l'Égypte, à travers le sphinx, joue un rôle déterminant. Le sphinx, l'Égypte, est décidément une sorte de point qui vient, en termes de catharsis, symboliser, finalement, la problématique du temps. Et puis, dans ce vocabulaire égyptisant de la France de la fin du XIXe siècle, il est évidemment une figure centrale, qui est celle de Cléopâtre. Voilà d'ailleurs un tableau encore de Jean-Léon Gérôme représentant Cléopâtre et César. Vous avez tous en tête cette scène du fameux film avec Burton et Liz Taylor, où, n'est-ce pas, Liz Taylor arrive dans un tapis roulé, elle joue le rôle de Cléopâtre, et elle est déroulée, si j'ose dire, devant César. C'est une scène tout à fait historique, du moins racontée par les historiens. C'est celle que nous propose ici Jean-Léon Gérôme dans cette représentation de Cléopâtre et César. Cléopâtre est décidément très goûté par ces artistes éclectiques de la fin du XIXe. Voilà un tableau de Rixin représentant la mort de Cléopâtre. Mais voilà un autre tableau de Cabanel représentant Cléopâtre qui, de manière très sympathique, est en train d'essayer des poisons sur des condamnés à mort. Vous la voyez qui est là, voluptueusement allongée près de son léopard préféré, alors qu'agonisent quelques condamnés à qui on a fait boire d'horribles potions. Gustave Moreau va également s'intéresser, mais d'une manière plus symboliste, à Cléopâtre, à travers des compositions comme celle que je vous montre ici, où l'Égypte est présente, mais de manière plus décidément allusive, poétique, symboliste décidément. Parfois aussi, des artistes français nous font pénétrer en Égypte, mais par une petite porte plus quotidienne. Voilà un tableau de Georges Rosgrosse qui nous montre une scène au temps des pharaons. Vous voyez une jeune fille avec son chat qui est en train de se faire courtiser par quelques plaisants. Et voilà une autre scène du même Roche Gros, un artiste truculent, qui nous montre, à travers un tableau qui s'appelle Le Miroir, une jeune élégante qui est en train de se parer et de vérifier, n'est-ce pas, si sa parure est convenable. Les anglo-saxons vont avoir, et je terminerai par là, des attitudes tout à fait équivalentes. Par exemple, Edwin Lang, un anglais, va se faire une spécialité de ces scènes égyptisantes tirées du quotidien. Pour ma part, j'aime beaucoup ce tableau qui représente les dieux et leurs créatrices. Vous voyez un atelier dans lequel on réalise des ouchepti, des vases canopes, etc. Et vous voyez comment, détail charmant, une jeune artiste est en train de réaliser une statuette et de peindre la statuette d'un dieu chat. Et pour bien réaliser les moustaches du chat, on est en train de lui amener un vrai chat. Elle va, si j'ose dire, peindre les moustaches en fonction du modèle qu'on lui apporte. Hein. Tableau tout à fait charmant et qui nous fait rentrer dans une sorte de quotidien égyptien. Et c'est la même chose, toujours chez le même Edwin Lang, avec cette prêtresse d'Isis, entourée d'Ibis. C'est aussi à un quotidien mais plus funèbre que nous invite ici Laurence Alma Tadema dans ce tableau qui représente une veuve égyptienne. Vous voyez dans ce temple où des prêtres au crâne rasé sont en train de chanter, un sarcophage préparé, la momie qui l'est tout autant et la veuve qui se lamente au premier plan. D'ailleurs ce thème, n'est-ce pas, très égyptien de la lamentation de la mort mais qui sera suivi par une renaissance, apparaît aussi dans ce tableau de Pierce, un artiste étonnant états-uniens du 19e siècle, qui montre des lamentations sur le corps du premier-né. Ça fait partie d'ailleurs des pilets d'Égypte, hein, je vous le rappelle. Et vous voyez ici, n'est-ce pas, un couple qui se lamente avec le corps embaumé de leur enfant premier-né entre eux. Nous terminons ce regard sur cette Égypte, on pourrait presque dire fantasmée par les artistes occidentaux de la fin du 19e siècle, par Hans Marquardt, un artiste actif à Vienne au 19e siècle, artiste qui a notamment donné beaucoup dans le domaine de l'opéra. Hein. L'opéra est après tout un domaine, on a parlé de Mozart tout à l'heure, mais on pourrait parler d'Aïda, hein. un domaine dans lequel l'Égypte s'est fait une place aussi au 19e siècle. Et vous voyez ici comment Marquardt, j'allais dire, se déchaîne avec une chasse, vous voyez des chasseurs ou des chasseresses qui, dans tous les sens, sont en train de darder leurs flèches. Et je terminerai, de manière peut-être plus suspendue, par un tableau de Francis son nom, Kupka, cet artiste qui d'ailleurs ira plus tard vers une abstraction plus définitive, mais ce tableau date du tout début du XXe siècle, qui s'appelle Les Voies du Silence, où il nous fait pénétrer de manière, je dirais, mystérieuse, entre quelques allées de sphinx, dont on verrait les équivalents en Égypte même. C'est avec ce tableau, qui s'appelle d'ailleurs « Les voies du silence », et que, qui je crois montre bien à quel point, n'est-ce pas, l'Égypte domine l'imaginaire, que, à mon tour, je fais silence aujourd'hui. Je vous remercie.